Bienvenue à Crystal Universe, bibliothèque vivante qui a pour but de comprendre les subtilités de notre univers, de l'univers dans lequel nous évoluons et avec lequel nous interagissons. Je suis Nathalie, merci pour votre écoute et bonne intégration. L'amour. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est une énergie de création harmonieuse, intemporelle et sans condition. Il fait partie des plans supérieurs de conscience que l'on peut ressentir au plus profond de notre être, comme vivant et nous donnant beaucoup de force vitale. La relation amoureuse, qui a pour mission biologique à la base, est un processus alchimique. Sa raison d'être, c'est la materia prima, et ce n'est pas un hasard. Dans la transformation mutuelle, la materia prima devient la materia ultima, c'est-à-dire supérieure. Plutôt que de laisser la femme dragon et l'homme robot, dont les différences sont initialement source de conflits, la devise « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu » transforme ces différences comme source d'inspiration et de développement. Le dragon peut être maîtrisé et la machine peut s'humaniser. Festina lente, tout processus a besoin de temps. Oui, depuis des éons, l'image de l'homme et de la femme a subi dégradation, distorsion, persécution, parce que justement, la dimension sacrée a été effacée de nos mémoires. Les conséquences sont encore présentes. Les aspects dénaturés se manifestent en chacun de nous, et cruellement. Les stéréotypes ont pris corps, la domination et le pouvoir pour les uns, la soumission et la manipulation pour les autres. La destruction du féminin et du masculin sacré a bien été menée jusqu'à s'inscrire dans nos cellules. Jusqu'à croire que nous sommes comme ceci et comme cela, et que cela ne changera jamais, qu'il faut d'ailleurs composer avec ça, c'est comme ça. Mais c'est de la programmation et du conditionnement induite par la religion, renforcée par l'éducation, consolidée par le système. Un homme qui n'est pas dans sa dimension sacrée peut agir selon un modèle de masculinité basé sur la recherche du pouvoir et de contrôle, la domination de l'ego, conditionné pour avoir certaines attitudes vis-à-vis des femmes. Il peut penser de manière verticale et être déconnecté de son cœur. Il peut considérer que les émotions sont un signe de faiblesse, donc il ne les montre pas. Ce qui n'est pas, bien sûr, la vraie masculinité, mais son utilisation détournée. Une femme qui n'est pas dans sa dimension sacrée peut agir selon un modèle de féminité basé sur la recherche d'approbation, de soumission, de séduction, de manipulation, de compétition ou de self-défense, car effectivement, elle a été victime d'abus, de tyrannie et d'oppression par le passé. L'hypersexualisation, à travers la mode, les médias, les publicités, ne choque personne. Soit on est sexuel, soit on est asexué. Entre les deux, c'est confus. Ce qui n'est pas, bien sûr, la vraie féminité, mais encore une fois, son utilisation détournée. À plus petite échelle, ces clichés, basés sur de fausses croyances et sur des modes de référence établis, peuvent infiltrer et infester le couple dans les coulisses, malgré un devant de scène tout à fait ordinaire. Il est temps de rétablir la dimension du sacré, de retrouver en chacun de nous les qualités originelles et universelles du féminin et du masculin, et de les incarner. Alors, à quoi ressemble le couple basé sur la personnalité? Nous avons tous le besoin fondamental d'être aimés. Une grande partie de notre vie, d'ailleurs, sera conditionnée par ce besoin. Ce qui veut dire que notre mode de relation va se construire sur ce besoin. Bébé, le premier lien qui se crée avec sa mère, c'est avant tout une question de survie, est un lien de type symbiotique. Il y a une croyance qui s'imprime. La croyance qu'on ne pourra pas vivre si l'on n'est pas aimé. Notre cerveau limbique enregistre des mémoires émotionnelles qui correspondent à notre vécu durant l'enfance. Adulte, l'enfant intérieur, qui est une photographie énergétique, continue de vivre en nous. Dans une relation au sein d'un couple, on va rechercher inconsciemment à reproduire ce lien fusionnel initial. C'est au moment de la rencontre que l'on vit des choses extraordinaires avec l'autre, on le reconnaît comme étant familier. Cela nous procure un sentiment de complétude, d'épanouissement, de réalisation. De plus, notre âme, au moment où elle s'incarne, se fragmente, se divise et vit la séparation d'avec la source. Donc, ce sentiment de retrouvailles avec l'autre se vit très profondément. L'âme a recherché et trouve sa polarité complémentaire car elle est amnésique, elle ignore qu'elle la porte en elle. C'est pour cela qu'elle recherche à l'extérieur ce qui lui permettra de combler un vide. Le but, quand on s'incarne, c'est de retrouver la mémoire, car notre état naturel est l'unité. Simplement, durant l'enfance et durant une grande partie de notre vie, nous sommes soumis à des conditionnements, des programmations, des croyances, des peurs, des blessures liées à diverses expériences de vie. C'est ce qui va former la personnalité et le corps de souffrance. Et c'est ce corps de souffrance, c'est l'ego-personnalité qui va prendre les choses en main pour pouvoir faire face à son environnement. C'est ce qui peut être appelé aussi la prédation intérieure. Ce mode de fonctionnement est commun à la majorité des êtres humains, donc la prédation peut être aussi extérieure à nous, et c'est ce qui fait que nous fonctionnons dans le service à soi-même, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de servir nos propres intérêts, nos propres besoins. Et nous vivons dans un univers où on va privilégier l'utilisation du cerveau gauche, c'est-à-dire rationnel et logique, c'est-à-dire coupé du sentiment, de l'intuition, de la créativité. Voilà sur quoi va être basé le couple qui fonctionne à partir de la personnalité, le service à soi-même. Car les blessures de l'enfance, mais aussi de l'âme, se réactivent précisément dans la relation intime amoureuse. Et après la rencontre, la première crise, la première dispute, la première sensation de mal-être est déclenchée par la remontée de ce corps de souffrance. L'un étant le miroir de l'autre, dans le couple. Le corps de souffrance, il comprend les mémoires émotionnelles qui entraînent un certain mode de réaction par rapport à l'autre. Il contient les programmes tels que l'ego, le triangle dramatique victime-bourreau-sauveur, la misère sexuelle. Il renferme aussi les blessures. Donc, dans une relation basée sur le corps de souffrance, on est complètement manipulé par tout ce qui constitue la personnalité, manipulé par une personnalité blessée et programmée. Autrement dit, chaque partenaire se polarise, c'est-à-dire il se retranche dans sa personnalité. Nous demeurons dans une sorte de dépendance à ce corps de souffrance, car on ne connaît que ça. Et donc, on va aussi être dépendant de l'autre sous diverses formes. Et cela se traduit par de l'immaturité affective, via laquelle on va être piégé dans les projections et les attentes. Donc, on va être dans de l'amour conditionnel et exclusif. Des jeux de pouvoir se mettent en place, même sans que nous en ayons conscience. Manipulés, nous allons aussi manipuler l'autre. Et l'on va même croire que l'on a besoin de l'autre pour exister. Donc on va tout accepter au nom de l'amour. On va se faire du mal au nom de l'amour. Et là va se poser la question, à un moment donné, d'une séparation ou de la pérennité du couple. Et via le corps de souffrance, on va peut-être opter pour la pérennité avec des compromis, des frustrations. Ce qui veut dire qu'on va peut-être choisir de se soumettre à nos propres peurs, nos propres schémas, croyance, encore une fois, au nom de l'amour. Et cela peut devenir infernal. Nous pouvons développer des perversions délibérées ou inconscientes pour que le couple survive. Et c'est terrible, car on n'a pas la clé pour développer de nouvelles aptitudes relationnelles ou fonctionner de manière épanouissante. Cependant, il y a des couples qui fonctionnent très bien sur ce mode de souffrance et d'auto-sabotage ou encore de dépendance. Les limites et frontières ne sont pas définies de manière précise. La question est de savoir, est-ce qu'à la longue, c'est ce que l'on recherche? Surtout si l'un des deux partenaires ou les deux ressent qu'il n'est pas heureux. Ce qui est sûr, c'est que l'âme en prend un coup. Et les échanges énergétiques, lors des relations sexuelles notamment, peuvent laisser des traces sur tous nos corps. Crise ne veut pas forcément dire séparation. Mais quand il y a plusieurs crises, et quand une même problématique se présente, à plusieurs reprises, se pose la question à un moment, dois-je quitter mon conjoint? La seule bonne raison de se séparer est la protection vitale, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque pour sa santé physique et ou psychologique? Si nous sommes sous l'influence de la personnalité non guérie, donc de notre corps de souffrance, nous aurons forcément de bonnes raisons de ne pas se séparer, même au détriment de notre propre bien-être. Par exemple, par peur de la solitude, pour faire réagir l'autre, etc. Un indicateur important, c'est le degré de vitalité. Quand nous sommes fatigués, voire épuisés par une situation qui perdure, c'est que l'on n'est pas sur la voie la plus juste pour nous. Ça veut dire que nous devons nous autoriser à réajuster. Et cela peut être perçu comme une prise de risque du point de vue de la personnalité. On ne peut pas tout accepter, même par amour. Et qui nous dit que ce sera mieux avec une autre personne ? Les problématiques que l'on traîne personnellement se représentent toujours sous une autre forme. Dois-je quitter mon conjoint ou non ? Tant qu'il n'y a pas d'enjeu vital, on ne s'est pas trompé. Si les deux partenaires sont volontaires, la nouvelle structure du couple va dépendre de l'activation du complexe du cœur via un travail personnel qui consiste à s'émanciper de ce corps de souffrance, à s'extraire de ce corps de souffrance. La clé va être de revenir à soi et de partir de soi. Cela va être d'apprendre à écouter ses sensations et surtout les sensations corporelles, car le corps nous indique beaucoup de choses intéressantes. Ça va être d'apprendre à définir ses propres besoins. Mieux nous arrivons à définir nos besoins, mieux nous saurons les exprimer. Et les exprimer toujours en partant de soi. Voilà, je ressens cela, car tel besoin n'a pas été satisfait. Apprendre à s'introspecter. Travailler sur nos propres peurs et nos fausses croyances, sur l'amour, le couple, la famille. On va essayer d'établir notre propre profil émotionnel, à partir duquel nous allons apprendre à nous connaître nous-mêmes et savoir comment nous fonctionnons. Parce que quand on est en phase avec soi-même, avec honnêteté et cohérent, nous sommes plus à même de distinguer ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, et ce qui appartient à la relation. On ne va pas tout mélanger. Et là, on va pouvoir passer du couple traditionnellement basé sur la personnalité, au couple universel basé sur la personne. La personne, c'est quoi ? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui englobe l'enfant intérieur, l'homme intérieur, la femme intérieure. Ils sont unifiés. Ces trois parts de nous-mêmes, pour le moment, sont unifiées. La personnalité, elle, ce n'est qu'une partie de la personne. Alors voilà, est-ce qu'on décide de s'extraire de cette partie qui nous manipule, à savoir la personnalité, pour devenir réellement la personne, c'est-à-dire aller chercher ce que nous sommes de plus que la personnalité limitée. Même si l'autre ne fait pas ce même travail, car c'est son choix, eh bien, tentons l'expérience d'activer notre complexe du cœur, même si cela peut représenter un danger pour nous. Parce que s'extraire de la personnalité demande beaucoup de courage. Et l'ouverture du cœur induit que l'on fasse face à nos blessures non guéries, à notre ombre, c'est-à-dire ce qui n'est pas éclairé. L'ombre n'est pas forcément négative. Dans l'ouverture du cœur, on peut se sentir effectivement vulnérable, car on a pu le fermer pour de bonnes raisons. Mais ces bonnes raisons sont définies du point de vue de l'ego-personnalité. Mais tu vas voir, c'est une prise de risque qui vaut le coup. On y va en douceur, à son rythme et sans jugement, si l'on ne se sent pas prêt ou prête. L'ouverture du cœur, c'est aussi le pardon. Et pardonner, ce n'est pas excuser, c'est libérer. Le cœur vibral. Le cœur vibral, c'est notre cœur énergétique. Il génère un champ vibratoire intelligent mesurable, que l'on appelle CEM, champ électromagnétique, qui se projette au-delà du corps. Le complexe du cœur est un système d'analyse cohérent de l'information. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, l'information arrive toujours dans le cœur pour être analysée par le cerveau, et non l'inverse. Le cœur sait, le cerveau pense. Ce cœur énergétique est un lieu de fusion dans tous les sens du terme. Fusion qui définit la réunion, l'union, la rencontre des énergies, la rencontre du féminin et du masculin, le mélange, l'amalgame, la transformation. Par là, cela veut dire la fonte ou la liquidation des blessures. C'est un espace via lequel on soigne beaucoup de choses, grâce au baume du pardon sincère. C'est aussi la maison de notre enfant intérieur. La fréquence du cœur est une réalité énergétique qu'il est utile de cultiver. Cette fréquence, recevant mais aussi véhiculant de l'information, a une influence sur tous les autres cœurs. Il y a résonance. Cette fréquence permet l'émission d'une vibration qui apaise les échanges, qui transforme les conflits, anticipe les disputes, et par la loi de résonance invite l'ouverture du cœur de l'autre et attire le partenaire aux affinités similaires aux nôtres. À l'image de l'intrication quantique, où deux protons, même éloignés, vont réagir de la même manière, la communication à distance sur cette fréquence est possible. C'est pourquoi, lorsqu'on est centré au cœur, qu'on place notre conscience au niveau du cœur, nous émettons une fréquence qui peut influencer positivement l'environnement. À l'aide du souffle, de la respiration, quand la cohérence cardiaque est en place, c'est-à-dire rythmée, ordonnée et rééquilibrée, le cerveau suit et se synchronise au cœur. La cohérence cardiaque et cérébrale induit un sentiment de paix, tout en ayant les idées plus claires. « Le cœur fonctionne de manière organisée quand on est vraiment dans le moment présent. Et dans ce moment présent, cela permet l'activation du cœur pensant. Et l'activation du cœur pensant consiste à nettoyer les chakras reliés à la personnalité, c'est-à-dire les chakras racines, sacrés et plexus solaire. Et ces chakras, libérés de leur programmation, peuvent être donc sous l'autorité de l'intelligence du cœur, donc de notre esprit intérieur et notre âme. Parce que le cœur, c'est la porte de l'âme. On passe à un autre niveau de conscience. On n'est plus dans le niveau de conscience de la personnalité, mais dans le niveau de conscience de l'âme. Quand on pratique le pardon, on assiste à l'ouverture du cœur. Quand on a libéré cet espace du cœur grâce au pardon et qu'on y laisse entrer que des émotions élevées, telles que la joie, en nous souvenant de souvenirs agréables par exemple, eh bien on élève notre vibration corporelle et mentale. Et c'est lorsqu'on se trouve dans des états émotionnels élevés que l'on se sent pleinement en sécurité, que l'on est connecté avec l'amour divin intemporel et que l'on s'ouvre au champ de tous les possibles. La conscience au niveau du cœur nous promet équilibre, juste milieu, paix intérieure. Et dans cette paix intérieure, équilibré émotionnellement, nous cultivons l'état de neutralité bienveillante qui nous permet d'être dignes et légitimes de poser des limites saines quand cela est nécessaire. Non dans le tourbillon émotionnel, mais bien dans un état de neutralité bienveillante. L'état de neutralité bienveillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis présent à moi-même, à cet instant, maintenant, je suis centré tout en étant détaché. Cela ne veut pas dire ne plus rien ressentir, mais prendre du recul via l'observation consciente de soi-même et de l'environnement sans que cela nous bouscule. C'est cultiver la stabilité émotionnelle, être neutre. Et quand nous sommes neutres, il n'y a aucune influence, ni intérieure, ni extérieure. On est pleinement dans notre moment, tel le roseau au milieu de la tempête. Et c'est uniquement à partir de cet état de neutralité que l'on peut faire des demandes ou envoyer des intentions pour nous-mêmes ou pour la relation. Mais pour voir une demande ou une intention se réaliser, il faut bien comprendre que celles-ci doivent être émises à partir du cœur. Quand nous sommes neutres, et cette demande ou cette intention, elle doit être formulée au présent, de manière claire, précise, avec le plus de détails possible, de manière déterminée, sans équivoque. Et pour être certain que le résultat ou la réponse soit juste pour nous. On complète cette demande ou cette intention en finissant par dire « dans le juste ordre divin et l'harmonie divine ». C'est très important. Donc, l'état de neutralité et le travail personnel de démantèlement de l'ego négatif ainsi que l'émancipation de la personnalité font que ces demandes et ces intentions sont dépourvues de fausses croyances et de peurs. Ces dernières auront été au préalable désactivées, nettoyées, libérées, transformées. Ce qui veut dire que nous verrons se manifester toujours ce qui est juste pour nous, dans un délai qui dépendra bien sûr de la temporalité et de la réalité matérielle, mais surtout de notre détachement, notre foi dans le processus. Il ne doit pas y avoir d'attente. Et avec un peu de pratique, et grâce à cette foi dans le processus, on observe l'écart se réduire, cet écart entre le subtil et le réel. Par exemple, le matin, tu penses à acheter des fleurs, tu oublies ou tu diffères parce que la raison t'a dit que t'allais pas dépenser de l'argent pour un bouquet. Et l'après-midi, tes enfants reviennent de promenade et te ramènent deux beaux tournesols. C'est aussi simple que ça. L'âme désirait recevoir des fleurs. On parle alors de langage du cœur. Le cœur a émis une intention. Le cerveau a mentalisé, a raisonné, etc. Mais le cœur a émis une intention et cette intention a été entendue. Et au sein d'une relation, on va pouvoir s'adresser à l'autre de cœur à cœur de cette manière. Mais encore une fois, uniquement quand on est en état de neutralité bienveillante. Dans les moments de crise, c'est important de pratiquer cette neutralité bienveillante, car des mots pourraient dépasser nos pensées, surtout si nous sommes sous l'emprise d'une émotion comme la colère, par exemple. Donc il est utile d'apprendre à se retirer et se recentrer jusqu'à atteindre cet état de neutralité. Et une fois que l'on est en état de neutralité, on peut alors émettre. Et c'est à ce moment-là que l'on peut s'adresser à l'autre en lui parlant de cœur à cœur, de son cœur à nous, au sien, de cœur à cœur, dans la neutralité, dans le juste ordre divin et l'harmonie divine. On ne superpose pas sa volonté sur l'autre. On ne fait que faire une proposition de cœur à cœur. Et puis on laisse faire, on laisse venir, on reste centré sur soi. Alors tu vas me dire que pendant l'épisode de crise émotionnelle, de tension, de discussion à bâtons rompus, ben bien sûr, on ne pense pas à faire cela. Voire nous en sommes incapables, parce qu'on est complètement dans l'émotion. C'est pourquoi utiliser cette pratique de centrage et de neutralité de manière quotidienne facilite l'intégration de la posture. progressivement, cette posture de neutralité, elle s'intègre dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, elle s'intègre de manière organique, de manière physique, mentale, émotionnelle. Et vu qu'on l'intègre au cœur de nos cellules, cette posture, elle devient réflexe. Et donc, elle se manifeste naturellement et particulièrement quand nous avons le plus besoin qu'elle soit manifestée. Et notamment quand, justement, on est dans le tourbillon émotionnel, quand notre cerveau fait complètement blackout. Donc, cette pratique, il est conseillé de l'expérimenter chaque jour, en fait. Chaque jour, de manière à ce qu'elle devienne réflexe, de manière à ce qu'elle fasse complètement corps avec nous-mêmes. Et ce, pour n'importe quelle situation. C'est vraiment une discipline quotidienne que l'on doit s'autoriser et placer dans notre planning journalier. Et le soi-disant manque de temps ou la paresse, eh bien, ce sont des stratégies de l'ego négatif. Sauf que l'ego, c'est un programme. Et c'est toi qui en es le pilote. Donc, c'est de ta responsabilité. Il n'y a plus personne à blâmer si le résultat ne se manifeste pas. Et parfois, ce résultat peut ne pas correspondre à ce que tu attendais. C'est à toi de voir à partir d'où tu regardes, les yeux de l'ego ou les yeux de l'âme. Donc toujours concernant l'intention, eh bien pour formuler une intention, par exemple que l'harmonie revienne ou que le dialogue soit fluide, etc., eh bien, il va falloir aussi régler le conflit qu'il peut y avoir entre l'ego et l'âme. Donc, dans la formulation de l'intention, on va dire, j'ai le souhait et je souhaite résoudre tout conflit entre mon ego et mon âme. Et puis, je formule mon intention. Et on finit par dire dans l'harmonie divine et l'ordre divin. Alors, d'un point de vue de l'âme, justement, on va reposer la question. Dois-je quitter mon conjoint ? En prenant soin de notre enfant intérieur et en réconciliant le féminin et le masculin en soi, et ça passe par l'ouverture du cœur. Nous accédons à une fréquence vibratoire propice à vivre une meilleure harmonie dans notre relation de couple. Puisqu'on rétablit l'harmonie à l'intérieur de soi, le couple est le reflet. Nous savons qu'il n'y a que l'enjeu vital qui n'est pas discutable et qui nécessite que la séparation ait lieu, mais encore faut-il le détecter. Car si l'on est sous l'emprise de la personnalité ou du corps de souffrance, on va continuer à se trouver de bonnes raisons de ne pas s'extraire d'un couple qui menace notre vitalité ou notre vie physique ou psychologique. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est-à-dire quand on est dans le cœur, quand on est connecté à notre âme, via notre cœur, eh bien on a le discernement. Et avec le discernement du cœur, nous avons la capacité de ressentir, de voir, mais de ressentir les signes. Donc, la solution se présente d'elle-même. Nous le sentons au niveau physiologique, intérieur, organique. Le cœur s'ouvre, encore ou non, à cet amour qui nous lie à l'autre. Le cœur fait la différence, lui, entre l'affection, l'attachement et l'amour véritable. Et même dans la séparation, nous pouvons nous séparer dans l'amour sans se faire du mal et créer des traumatismes supplémentaires. Donc on va sentir dans le cœur, via le cœur, si oui ou non la séparation doit avoir lieu. Et quand on sent que la séparation doit avoir lieu, l'importance, c'est de se quitter avec amour. C'est aussi s'extraire des liens énergétiques également qui peuvent perdurer même après la séparation. Avec toutes les rancœurs, toute l'amertume ou tous les beaux souvenirs, tous les deuils à faire, on peut le faire dans l'amour. D'où la nécessité d'avoir coupé ses liens aussi avec des ex-compagnes ou ex-compagnons. Il faut apprendre à préserver la fiole alchimique dans laquelle est le couple. À préserver cette fiole d'autres énergies extérieures. Parce que parfois, c'est pas tant nous-mêmes ou l'autre ou la relation qui ne va pas. Parfois, c'est des infiltrations d'énergies contraires qui peuvent malmener le couple. Une relation de couple basée sur l'intelligence du cœur et où chaque partenaire est unifié permet de former un couple co-créateur. C'est pour ça qu'il est important de préserver cette fiole alchimique. Autrement dit, quand on a retrouvé l'unité en nous, nous sommes naturellement connectés à la source créatrice, à notre propre source. On se régénère auprès de notre propre source. On s'auto-source. Et c'est vrai que dans ce cas-là, que l'on soit accompagné ou pas dans la vie, a peu d'importance. Le couple, dans ce mode-là, où il y a deux individus qui sont complètement autonomes et matures affectivement, ben c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est aussi une bénédiction pour l'environnement. C'est un couple co-créateur, c'est un couple qui est au service du plan. C'est un couple qui est au service du bien commun. Cette énergie d'amour, cette énergie créatrice, elle va grandir dans ce couple où chacun est un. Et elle va pouvoir être communiquée. L'effet papillon, elle va pouvoir se dégager, même à distance. Alors à quoi ressemble le couple universel, c'est-à-dire basé sur la personne? La personne, encore une fois, c'est l'ensemble. Elle inclut la personnalité et sa prédation intérieure. Elle inclut l'enfant intérieur, le féminin intérieur, le masculin intérieur, le maître dans le cœur et le soi omniscient, c'est-à-dire le soi supérieur. Là, il n'y a plus de division. La personne est unifiée, elle est complète. Et encore une fois, quand on s'émancipe de tout ce qui est relié à la personnalité, on accède à ce que l'on appelle le complexe du cœur, tout bonnement relié au chakra du cœur, à la dimension et niveau de conscience de l'âme. Et là, notre regard y change. Nous devenons l'observateur conscient. On incarne dans l'alignement, le centrage et la conscience au cœur, le maître véritable dans nos attitudes. Le maître responsable aussi et mature spirituellement. C'est une posture que l'on adopte naturellement parce que on l'a expérimentée au quotidien, parce que on l'a intégrée. Et puis, on l'adopte cette posture parce qu'on accède systématiquement, via le discernement, à des informations que l'on pourra sentir comme étant juste ou pas juste, vérité ou non, par rapport à nous-mêmes. De l'information de lumière vivante ou de fausse lumière, ça on arrivera à le détecter. On arrive à le détecter. Donc, on détecte ce qui relève ou non de notre prédation intérieure, on connaît les mécanismes et donc on les comprend mieux chez l'autre. Et par conséquent, nous sommes plus indulgents, tout en s'octroyant le droit de lui poser des limites. De dire, stop là, tes projections, je ne cautionne pas d'en être le dépositaire. Et on le fait avec beaucoup de douceur, puisqu'on est dans notre posture, on est cohérent entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qui se dégage à l'extérieur, ce qu'on dit verbalement. On le fait avec beaucoup de douceur, car c'est pas tant les mots que l'on va employer qui vont avoir un impact, même s'il faut les choisir en les teintant de bienveillance et non d'accusation, évidemment. Mais l'autre, ce qu'il va percevoir quand on pose des limites, c'est la cohérence qu'il y a entre notre posture et nos mots, donc de ce qu'on émane en le disant. Et là, nous sommes pleinement dans la vertu de l'exemplarité. Il faut être cohérent et honnête avec soi-même. Ce que je pense par le cœur, je peux le dire à haute voix, mais aussi en expérimentant le langage du cœur, à distance, à l'intérieur, de cœur à cœur, avec quelqu'un qui n'est pas là physiquement. Donc, au sein d'un couple créateur, être aimé, c'est redevenu un état naturel. On est toujours aimé de la source. On la réintègre comme étant une réalité, donc on n'interroge plus cette question d'être aimé. Et le mode de relation au sein du couple universel et régi par l'intelligence du cœur. Et là, nous sommes dans le véritable service à autrui, c'est-à-dire basé sur le bien commun. On n'est plus centré sur nos intérêts personnels, on est dans l'intelligence du cœur, donc dans l'émanation de cette cohérence intérieure et de cette maîtrise intérieure. Au service de l'humanité. Donc on est dans cet état d'unité intérieure. Ça veut dire qu'une fois que notre masculin et notre féminin intérieur ont appris à se donner mutuellement ce dont ils ont besoin, ils peuvent accueillir et aider l'enfant en nous à guérir ses souffrances et à grandir. Ils deviennent les parents de l'enfant intérieur. Donc les polarités intérieures unifiées, c'est la genèse de toute union qui se manifeste à l'extérieur. Donc dans ce couple universel qui fonctionne sur l'intelligence du cœur, les blessures fondamentales de l'âme, telles que l'humiliation, le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice, sont fusionnées au niveau du cœur, qui, je le rappelle, est un lieu alchimique de transformation grâce à sa fréquence. Donc ces blessures, elles sont guéries. Elles peuvent revenir de temps en temps, mais pas avec la même intensité, et puis on peut les traiter systématiquement quand elles se présentent. On a les clés pour le faire. On se centre et consciemment on est dans la neutralité. De la même manière pour les mémoires émotionnelles, les peurs, les programmations, elles sont désactivées, elles ne nous manipulent plus. Dans cet état d'unité intérieure. Et donc dans ce couple universel, chaque partenaire, qu'il soit homme ou femme, cultive la cohérence cardiaque et cérébrale, c'est-à-dire l'intelligence du cœur et l'utilisation des deux hémisphères cérébraux de manière simultanée permet de fonctionner de manière optimale, de mobiliser à la fois le rationnel et l'intuitif, le ressenti avec l'action, et tout se place. Donc l'état d'unité intérieure, c'est développer les qualités universelles des deux polarités complémentaires qui sont présentes en chacun de nous. Donc de cette manière, les besoins sont satisfaits, donc on ne les attend pas, on n'attend pas que ce soit l'autre qui les satisfasse. On développe notre maturité affective et notre responsabilité personnelle dans un couple universel. Et donc de nouvelles aptitudes relationnelles dans le couple et des aptitudes relationnelles qui soient verbales ou subtiles. L'homme et la femme qui sont dans leur masculin et leur féminin sacré, autrement dit qui développent et qui incarnent les qualités originelles et universelles de chaque polarité, ont les caractéristiques suivantes en tant que personne. La personne qui active son masculin intérieur n'est plus gouvernée par son ego, elle est connectée à son cœur, elle accepte ses émotions et n'a pas peur de les montrer. Elle utilise sa force pour faire le bien, elle honore son propre féminin, elle le protège et donc accepte les femmes. Elle n'est pas contrôlée par sa sexualité, elle exprime son identité sans rejeter les qualités physiques qui fait d'elle un homme ou une femme. La personne qui active son féminin intérieur comprend que sa valeur n'a rien à voir avec sa sexualité. Elle n'est pas en compétition avec les autres femmes ou les hommes. Elle cultive toutes ses qualités. Elle n'a plus besoin du regard des autres femmes ou des hommes. Elle recherche l'union et l'alliance et elle a compris le but spirituel des relations amoureuses. Elle honore son propre masculin. Elle œuvre pour sa propre évolution. La personne, dans l'absolu, se soucie de son impact sur les autres et sur le reste du monde. Dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes au quotidien, elle a connaissance des impacts, des conséquences énergétiques. Donc elle va être vigilante dans ce qu'elle émane. Donc le couple universel voit le monde avec les yeux de l'amour. Il se laisse guider grâce à l'alignement, le centrage, la neutralité, la conscience de l'observateur et la vigilance intérieure. La communication verbale est fluide. On opte plutôt sur la confrontation au lieu de la dispute. Et dans le couple universel, les limites et frontières sont naturelles et clairement définies. Là, nous sommes dans l'univers de l'amour inconditionnel et inclusif, c'est-à-dire qui inclut tout, même ce qui est de l'ordre contraire. Clairement, basé sur la personne, le couple est l'expression de l'intelligence du cœur. Âme à âme, cœur à cœur, esprit à esprit. Et forcément, les corps suivent, physiquement, en termes de vitalité, mais aussi en termes de sexualité. La sexualité est alors consciente, plus consciente et créatrice. La boîte à outils pour développer des relations positives. Il faut garder en tête que nous attirons ce que nous vibrons, malgré nos raisonnements. Alors, si nous voulons modifier ce que nous vibrons à l'intérieur et élever notre vibration personnelle, cela va passer par des prises de conscience et l'utilisation de pratiques ou de techniques visant à accompagner le processus de transformation. Et tout cela en passant par des réformes de nos modes de pensée et de vie. Parmi ces pratiques et ces techniques, il y a bien sûr l'introspection volontaire, qui va être de revenir à soi, se centrer sur soi et partir de soi. Connais-toi toi-même. Il y a aussi le soin à l'enfant intérieur. Il y a l'harmonisation énergétique grâce au toucher, au yoga, à la danse ou autres techniques corporelles. Il y a l'imagerie mentale combinée à la sensation de joie et au souffle, la respiration. Il y a la pratique de la cohérence cardiaque. Bien sûr, la méditation pour le calme de l'esprit, pour la déprogrammation des peurs, des croyances, des émotions, pour l'union du féminin et du masculin. Et il y a le brain gym aussi pour faciliter la connexion et l'utilisation optimale des deux hémisphères cérébraux de manière simultanée. Notre cerveau humain est divisé. Et pour comprendre les mécanismes, nous avons besoin de prendre conscience des fragmentations de notre être en les identifiant. Ainsi, nous pouvons choisir de réunifier toutes les parts de nous-mêmes dans une intention d'incarner l'unité, ces différents aspects de nous-mêmes qui s'unissent. La relation de couple est un jeu de miroir qui met en exergue tout ce que nous devons rencontrer en nous-mêmes. Et la personnalité, étant la somme de notre passé et des expériences qui nous ont façonnés, ne recherche plus une vie émotionnelle, mais une vie en accord avec notre être le plus profond, avec notre âme, la connaissance de soi, con, essence, connexion avec son essence, via l'activation du cœur pensant, est la clé qui ouvre la porte sur le champ de tous les possibles. La volonté de se développer personnellement et spirituellement, en commençant par retrouver la mémoire de ce que nous sommes, contribue à réajuster ce qui ne semblait pas nous convenir dans notre vie affective et d'éclairer la relation dans sa dimension universelle. C'est le retour du féminin et du masculin sacré sur Terre qui est attendu et qui est déjà là. Ainsi, extrait des jeux, des personnalités qui se heurtent, la relation intime devient un vecteur d'élévation de conscience, tout comme la sexualité. Le maître est dans le cœur, et via ce cœur, il est relié à la conscience supérieure, notre pure essence, notre plus haute forme d'identité. Ce maître intérieur rejoint le soi supérieur. Pour ne faire qu'un, il n'y a alors plus de fragmentation. La personnalité est sous l'autorité du maître en soi, de la conscience supérieure. C'est alors le gage du bonheur que de choisir de se laisser guider par ce moi omniscient présent dans les plans supérieurs, en réalité en nous-mêmes, pour notre propre épanouissement, seul mais également au cœur de la relation de couple. Je te propose de retrouver d'autres ressources en t'inscrivant sur la plateforme Espace Études sur www.crystaluniverse.com. Merci.